fréquence.
Haute fréquence, Sabine Peterman.
Bonsoir et bienvenue à vous. Il s'appelle Nassim Asmarou, signe particulier, marié et ordonné prêtre de l'église chaldéenne de Suisse ce week-end.
Moi personnellement, je viens d'une église qui a connu tout le temps des prêtres mariés, des prêtres célibataires. J'aurai deux familles. J'aurai une famille de mystiques et une deuxième famille ecclésiale. Mais je suis très curieux, très confiant aussi, de voir comment je ferai l'équilibre, bien sûr, entre les deux. Donc nous n'avons pas d'enfants. Ben, on aura, je ne sais pas combien, une centaine. C'est un beau défi.
Le défi de structurer une petite diaspora d'un millier de personnes. Et c'est Evelyne Auberçon qui nous emmènera, en seconde partie d'émission, découvrir cette communauté chaldéenne, une église qui remonte aux origines du christianisme et qui parle encore la langue de Jésus, l'araméen. Mais tout de suite, focus sur la violence faite aux femmes avec le docteur Denis Mukwege qui, dans son hôpital en République démocratique du Congo, a soigné depuis 1999 plus de 50 000 femmes mutilées suite à un viol. Vous écoutez Haute Fréquence et c'est une proposition RTS Religion. On débute cette émission avec vous, Gabriel de Sarzan. Bonsoir.
Bonsoir, Sabine.
Vous nous proposez une rencontre avec le docteur Denis Mukwege, un médecin du Congo RDC.
Oui, un gynécologue connu pour ses engagements envers les femmes, surnommé l'homme qui répare les femmes, puisqu'il répare les conséquences de la destruction volontaire des organes génitaux des femmes suite au viol et notamment lorsqu'il est planifié comme arme de guerre. Un homme qui a reçu plusieurs prix, dont par exemple le prix Sakharov en 2014, le prix Héros pour l'Afrique au Parlement européen en 2016, et qui est non seulement médecin spécialisé dans la chirurgie réparatrice des femmes violées, mais aussi pasteur.
Et Denis Mukwege était de passage à Genève.
Oui, notamment pour la journée de hier, dite Journée internationale pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Une journée pour laquelle la Fondation suisse du docteur Mukwege et le collectif I Respect Women se sont associés dans un effort de sensibilisation. Ce collectif, dont Denis Mukwege assure la présidence d'honneur, a été fondé par le chanteur jurassien Philippe de Courroux, très engagé lui aussi envers les femmes et ami du médecin. Et au terme de l'événement qu'ils ont proposé ensemble, Philippe de Courroux a donné un concert. Alors, dans le sillage de l'affaire Wettstein, j'ai trouvé judicieux de donner la parole à ce médecin qui pratique à Bukavu, au Congo RDC, et dont la fondation à Genève, LAE, travaille au niveau mondial pour renforcer les lois et règles interdisant la violence sexuelle. Je l'ai rencontré vendredi et j'ai commencé par lui demander si, quand on parle de harcèlement, de violence faite aux femmes, on parle de la même chose, qu'on soit en Afrique ou ici en Occident. Denis Mukwege.
Je pense que le harcèlement existe en Afrique, mais peut-être on en parle moins du fait que le niveau de violence, viol, est très très important. Et donc aujourd'hui, c'est comme si on s'attachait à beaucoup plus ce problème de viol, puisque dans mon pays, ce sont des viols avec extrême violence, donc des atteintes pas seulement psychologiques, mais des atteintes physiques assez graves. Mais je crois que les deux questions nécessitent d'être prises en compte, puisque je crois qu'elles touchent la dignité de la femme, et je crois que c'est tout simplement inacceptable.
Comment est-ce qu'en Afrique, et notamment au Congo, cette violence faite aux femmes est-elle dénoncée? On a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui change.
Ben effectivement, il n'y a pas grand-chose qui change, ou très peu, puisque tout simplement, la culture de l'impunité a pris place. Et donc, c'est un crime. Les auteurs devraient être poursuivis. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les femmes n'ont vraiment que très, très peu de moyens pour aller en justice. Et lorsqu'elles vont en justice, à la fin, il n'y a pas de réparation. Ce qui fait que c'est côté impunité pèse beaucoup sur ces crimes et ça fait que beaucoup de femmes préfèrent le silence qu'aller s'humilier pour la deuxième ou la troisième fois.
Denis Mukwege, vous êtes chirurgien, mais vous êtes aussi pasteur. Est-ce que les églises se sentent concernées en Afrique par cette question de violence faite aux femmes ?
Il y a quelques années, on avait eu beaucoup de problèmes avec des églises. Mais aujourd'hui, je crois que spécialement en République démocratique du Congo, il y a une évolution positive où les femmes ne sont plus culpabilisées comme cela fut le cas il y a une dizaine d'années. Et je crois que ça, c'est une évolution positive. Parce que être culpabilisé pour une faute, donc on est culpabilisé dans la famille, on est culpabilisé dans la communauté, et l'Église qui normalement devrait être le refuge vous culpabilise, donc les femmes, c'était très très difficile. Mais il y a eu beaucoup de séminaires avec des pasteurs, des religieux pour discuter de cette question, et je crois qu'aujourd'hui il y a un phénomène très positif qui est en train de se produire.
Est-ce que justement, selon vous, les instances religieuses doivent être des actrices dans ce dossier-là ?
Absolument, puisque quand vous voyez comment ces violences se passent, moi je les appelle démoniaques. Vous violez déjà une femme, c'est très très grave, mais vous imaginez la violer, après la mutiler ou introduire n'importe quoi dans son appareil génital, et c'est tout simplement démoniaque à mon avis. Et lorsque les bébés sont violés par les adultes, je crois que l'Église a un rôle très très important à jouer, puisque pour lutter contre les violences, il faut absolument éduquer les gens. Et quand vous êtes dans un pays où 90% des gens sont, ils se disent chrétiens, que des choses comme ça se passent, donc il y a du travail à faire sur le plan de l'éducation, sur le plan tout simplement d'amener les gens qui commettent ça, puisque heureusement que c'est pas tout le monde qui commet ces actes. Et j'ai toujours dit, quand j'étais en réunion avec les pasteurs ou les serviteurs, je leur dis, en fait, les viols vont continuer tant que les hommes qui ne violent pas n'élèvent pas leur voix. Et je crois que c'est une forme de complicité passive, mais il faut absolument lever les voix. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Alors, où sont les hommes qui ne violent pas s'ils ne se mettent pas debout pour dénoncer et donc empêcher ça? Je pense que si les hommes peuvent agir de façon proactive par rapport à cette question, on peut arriver à isoler la minorité et la faire réfléchir. Quand on voit ce qu'on voit avec l'affaire Weinstein, c'est triste. Et je crois que les hommes qui ne font pas ça doivent se mettre debout. C'est pour ça que je suis d'ailleurs ici à Genève avec des courroux pour vraiment lancer cette idée où les hommes luttent contre la violence sexuelle. Je dois vraiment faire préciser que les viols utilisés comme une arme de guerre, où les femmes sont violées en présence des enfants, en présence des voisins, etc., ces scènes macabres, moi je trouve qu'elles sont faites pour détruire non seulement la personne physiquement, mais la détruire moralement, spirituellement. Et donc l'Église a tout à fait une place à jouer dans ce contexte.
Vous avez dit que l'Église s'était un peu réveillée sur ce dossier. Ça fait combien de temps et quel a été peut-être l'élément déclencheur ?
Bon, il a fallu d'abord donner l'information. Vous savez, dans beaucoup d'églises, tout ce qui a rapport au sexe, c'est un péché. Et je crois que lorsqu'on a ces concepts, on ne veut pas savoir. C'est peut-être aussi une interprétation. Mais je crois que nous avions fait beaucoup de séminaires qui se rapportent même au viol dans la Bible. Et je crois que ça a porté des fruits. Les gens ont compris que c'est un phénomène, il ne devrait pas rester indifférent. Leur indifférence ressemblait beaucoup plus à une complicité.
Donc vous avez fait en fait comme de l'éducation au sein même de l'Église ?
Absolument, absolument. Il y a eu vraiment cette éducation. Aujourd'hui, le problème des viols dans le monde, le harcèlement sexuel, les violences qui sont faites aux femmes, il faut une grande éducation. Je crois que Il y a beaucoup d'actes que les hommes posent, mais qui sont des actes qui ont leur source dans leur éducation de base. Et je crois que lutter contre les violences sexuelles, c'est éduquer, amener les hommes à comprendre que les femmes, ce ne sont pas des objets, que les femmes sont égales aux hommes et qu'elles sont créées aussi à l'image des dieux. Et je crois que ça, c'est très important. Mais lorsque les hommes considèrent que les femmes, c'était une classe à part, qu'elles étaient des sous-hommes, etc., après, lèvent conscience, quand ils font du mal, ils ont l'impression que c'était leur droit. Et je crois que ça, ce sont des concepts qu'il faut absolument changer dans notre société patriarcale. Il y a beaucoup de choses à changer. Ça ne peut passer que par l'éducation.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette conception de la femme, elle est typique à l'Afrique ou bien elle est aussi présente ici en Occident ?
Absolument. Je crois qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui veulent dire, voilà, ça c'est un problème des Africains. Mais allez parler avec les femmes de l'ex-Yougoslavie, c'est à quelques kilomètres d'ici, et elles vont vous dire ce qu'elles ont subi pendant la guerre. C'est atroce, c'est difficile à imaginer que ça s'est passé aussi proche de la Suisse. Et je crois que il faut admettre aujourd'hui, notre organisation essaie de réunir toutes les victimes de violences sexuelles survivantes, faire une espèce de plateforme pour leur permettre de discuter de leur situation, d'échanger d'expériences, savoir comment les unes et les autres ont pu s'en sortir dans leur contexte. Et nous avons aussi bien des Américaines, des Européennes, des Asiatiques. Nous avons des femmes de l'Iran, de la Syrie, femmes de la Bosnie. Et je crois que ce phénomène, c'est un phénomène qui est global. La grande différence, c'est que lorsqu'on a la paix, pendant la période de paix, ça se traduit par le harcèlement, les violences telles qu'on les connaît en Europe. Mais lorsqu'il n'y a ni loi ni foi, eh bien, ça se fait de la même façon dans tous les conflits.
On peut peut-être rappeler, Denis Mukwege, hein, que le viol comme arme de guerre consiste à détruire la femme dans sa sexualité, mais aussi à implanter l'ennemi dans le corps de l'autre, hein, dans le corps de la femme. Ça s'est pratiqué, vous l'avez dit, aussi en Bosnie, en ex-Yougoslavie. Est-ce que ça fait référence peut-être à des croyances animistes en Afrique ?
Bon, je crois que vraiment il peut y avoir des interprétations, mais quand on voit l'évolution en fait de l'usage du viol dans les conflits, moi-même j'étais parti au Japon et en Corée du Sud, ma collaboratrice y était également, pour discuter par exemple avec les femmes de confort.
De confort, ça veut dire quoi ?
Ce sont des femmes qui étaient utilisées par l'armée japonaise, les femmes de la Corée du Sud, par exemple, ou des Philippines, qui étaient utilisées par l'armée japonaise. Et la façon de faire, c'est tout à fait bestial. Une femme, vous l'exposez, les gens font la queue pour la violer pendant toute la journée. Donc, c'est vraiment, vous ne la considérez pas comme un être humain, physiquement, moralement, sentimentalement. C'est pratiquement des actes qui donne un très très mauvais reflet de l'homme. Et je crois que en Afrique, beaucoup de femmes que j'avais vues avant, elles étaient violées quand le pays était sous occupation de cette armée étrangère. Mais quand ces armées se sont retirées, la mentalité est restée à cause de l'impunité. Nous avons un procès pour les enfants qui étaient violés dans le village de Kavumu. Et lorsqu'on pose la question, apparemment, c'est du fétichisme. Et donc, vous comprenez très bien que on peut avoir toutes les explications pour essayer d'expliquer l'acte qu'on pose. Mais je crois que dans le fond, c'est cette relation homme-femme qu'il faut reconstruire, qu'il faut redéfinir. C'est cette relation qu'il faut éduquer. Je n'ai pas l'impression que c'est une relation liée à une pratique animiste. Non. Je trouve que les gens se trouvent des prétextes pour pouvoir faire le mal aux femmes. Et la vision, la façon de voir la femme est la même.
Est-ce que dans la société africaine, notamment au Congo où vous habitez, le pasteur est une bonne personne relais pour instaurer un changement justement dans les relations hommes-femmes?
Je pense que le pasteur pourrait jouer un rôle très très important. Pourquoi? Puisque je trouve quand même que dans beaucoup de pays africains, il n'y a que des pasteurs qui réunissent des foules, que les gens veulent bien les écouter et ils ont une audience très importante. Le grand problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'improvisent pasteurs et qui commettent des actes criminels en mettant le manteau de pasteur. Et je crois que ça, c'est déplorable.
Et ça se passe notamment au Congo.
Absolument. Je crois qu'il y a beaucoup de sectes qui abusent de la population sur tous les plans. Mais les gens sont très attentifs et je pense que Dieu est amour. Il nous aime, et donc si on pouvait leur prêcher cet amour agapé, ça pouvait beaucoup plus les aider, puisqu'ils sont disposés à écouter les pasteurs. Mais je ne dois pas affirmer que tous les pasteurs ont un message de paix, de construction. C'est regrettable, puisque c'est une opportunité gâchée.
Denis Mukwege, vous êtes connu comme le chirurgien qui répare les femmes. Après l'opération chirurgicale, est-ce que vous procédez à une opération sociale, spirituelle?
Absolument. Dans notre expérience, on s'était rendu compte que le traitement physique était insuffisant. À partir du moment où les bourreaux, non seulement ils détruisent les corps, mais les actes qu'ils posent en public ou qu'ils posent étant nombreux, ce sont des actes qui visent à humilier, ce sont des actes qui visent à déshumaniser. Et il y a une atteinte psychologique et spirituelle assez profonde. Donc dans notre travail, ce que nous faisons effectivement, nous utilisons plusieurs types de thérapies pour essayer de les aider. Il faut dire aussi que c'est le traitement qui prend beaucoup plus de temps. Les blessures physiques, on peut les soigner assez rapidement et on peut avoir des bons résultats rapidement, mais les blessures mentales, ça prend du temps. La prise en charge psychologique, spirituelle, elle est la plus longue et la plus difficile.
Denis Mukwege, qu'en est-il de la violence faite aux hommes ?
Dans nos statistiques, c'est à peu près 1% des violences qui sont faites aux hommes. Et lorsque les hommes subissent ce que les femmes subissent, puisque j'en ai vu même des hommes qui étaient mutilés, même si ils ne sont pas mutilés, que ce soit seulement des pénétrations de leurs orifices, les hommes sont, sur le plan psychologique, ils sont très très difficiles à relever, surtout lorsque ça se passe en face de leurs enfants et de leurs épouses. Cette humiliation les amène souvent au suicide. Et là, on fait très très attention lorsque l'homme arrive à se plaindre et qu'il dise ce qui lui est arrivé. Et souvent, on voit que psychologiquement, ils sont très très perturbés et leur prise en charge doit être faite avec beaucoup de délicatesse puisque la tendance suicidaire est quand même très très élevée.
Le docteur Denis Mukwege à votre micro, Gabriel de Sarzan. Et pour les hommes qui souhaiteraient s'associer à la démarche, il est possible de signer un engagement sur le site international du collectif I Respect Women. Il s'agit du site cirw.org. Merci beaucoup pour ce sujet, Gabriel. Un sujet que vous pouvez réécouter sur notre portail thématique rtsreligion.ch.